Il est 7h51.
Le 6-9 du week-end sur France Inter.
Votre invité, Patricia Martin, Félix Tréguer, il est chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS, membre fondateur de l'association Quadrature du Net. Et vous êtes l'auteur, Félix Tréguer, de L'Utopie déchue, une histoire, une contre-histoire d'Internet. Le livre paraît aux éditions Fayard.
Félix Tréguer, bonjour.
Bonjour.
À vous lire, on se dit que vous êtes un amoureux déçu, qu'il aurait peut-être mieux valu que Internet, que l'ordinateur n'ait jamais été créé.
Oui, je m'en veux un petit peu d'avoir été bercé par les 12 utopies du numérique. Après 10 ans d'engagement dans les combats autour des droits de l'homme dans l'environnement numérique, c'est vrai que le constat est un peu amer. Un outil qui devait servir à l'accès au savoir, à la connaissance, qui devait démocratiser la liberté d'expression, transformer l'écosystème médiatique pour favoriser la démocratie. On se rend compte qu'il est en fait un formidable instrument aux mains des pouvoirs étatiques et économiques.
Une utopie parce que Internet se moque des frontières, parce que ça a quelque chose d'instantané, d'immatériel, d'émancipateur, d'universel en fait. C'était ça, c'est ça
ouais,
aussi.
L'utopie Internet tient en effet à ça, à la possibilité de créer un espace public, médiatique, transfrontière, de s'affranchir aussi en partie. Hein, c'était une des croyances des pionniers d'Internet, de certaines législations répressives des États-nations. Et de fait, ces derniers ont réussi à reprendre la main et à instaurer des formes de contrôle social, de contrôle des communications attentatoires aux libertés publiques.
Et du coup, ça rendait aussi le monde d'hier obsolète, d'une certaine manière.
Bon, en tout cas, on cherchait à dépasser un écosystème médiatique, des médias de masse qui étaient suspects d'immixtion avec le pouvoir politique, une concentration économique et plein de choses de cet ordre-là. Et on pensait pouvoir dépasser cela. Et effectivement, les transformations dans l'économie politique d'Internet, l'apparition d'un oligopole du numérique, hein, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook et compagnie, a abouti à une recentralisation très forte et qui en fait reproduit certains des biais, la publicité par exemple, ou là encore un contrôle politique qui était aussi caractéristique de cet écosystème médiatique qu'on cherchait à dépasser.
On peut faire le parallèle avec la révolution qu'a été l'imprimerie.
En fait, dans le livre, effectivement, j'essaie de remonter jusqu'au 15e, 16e siècle et pour voir comment chacun en fait des moyens de communication apparus depuis l'imprimerie.
Avec toujours une stratégie de contrôle, en fait.
Oui, avec d'abord des espoirs et des usages contestataires de ces moyens de communication pour contester les pouvoirs et très vite, effectivement, une reprise en main par les puissances.
Oui. Alors, censure, surveillance, traçabilité, tout ça, vous en avez déjà un petit peu parlé. Liberté d'expression mise à mal. Est-ce que c'est une chimère aujourd'hui d'imaginer qu'il puisse avoir une police sur les plateformes numériques?
Une chimère, non, dans le sens où elle est en pratique en train de se construire.
C'est-à-dire qu'il faut lutter contre les États et contre les multinationales. Ça fait deux combats.
Et en fait, c'est un combat, c'est des combats qui se rejoignent puisque en fait, on assiste à une alliance toujours plus poussée entre justement ces grandes plateformes dont on parlait, notamment Facebook et Google, avec les États. Et donc en fait, les formidables capacités de surveillance mises en place par ces entreprises pour faire de la publicité ciblée en particulier, puis plaire aux annonceurs et faire en sorte que les contenus qui circulent sur ces plateformes soient de plus en plus conformes aux attentes des annonceurs, qu'ils a donc amené à développer des moyens de régulation des expressions, de filtrage, de hiérarchisation des contenus sur ces plateformes. Tous ces outils-là qui ont été parfaits par ces entreprises sont en train d'être appropriés par les États pour des motifs de surveillance étatique cette fois et de censure politique.
Donc vous êtes en train de nous dire que nos régimes politiques sont antidémocratiques.
Alors c'est aussi quelque chose que j'essaie d'explorer dans le livre, c'est de se rappeler en fait comment au XVIIIe siècle, tous les penseurs du régime représentatif qui est encore qui est au fondement de nos régimes politiques contemporains sont pensés contre la démocratie. Et je trouve évidemment on en trouve des traces très fortes jusqu'à aujourd'hui et encore plus dans un contexte sécuritaire qui marque nos sociétés depuis plus de 20 ans qui aboutit à de fortes régressions en termes de protection des libertés publiques et à des formes de régulation sociale qui sont de moins en moins compatibles avec l'idéal démocratique et l'idéal d'autonomie et de liberté qui doit fonder un régime démocratique.
On est dans une impasse ou est-ce qu'on peut imaginer une alliance au fond entre gouvernement et grandes boîtes? Est-ce qu'il y a là une voie possible à condition qu'il y ait la volonté politique pour le faire?
Je pense que les outils pour transformer l'environnement numérique, transformer Internet et en faire un outil d'émancipation existerait. Le problème, c'est que je ne crois pas que les conditions historiques soient réunies pour qu'on arrive à renverser la vapeur. Et donc, j'avoue que je suis assez pessimiste. Et il me semble que justement la critique de la technologie, dont j'essaye aussi de refaire un petit peu l'histoire dans ce livre, il faut se rappeler que l'ordinateur et l'informatique ont fait l'objet d'oppositions très fortes dans les années 60-70. C'est quelque chose qu'on a largement oublié. En fait, les débats de l'époque ressemblent beaucoup à ceux qu'on a aujourd'hui, s'agissant des capacités de surveillance, s'agissant de l'incorporation de la machine informatique dans les grandes bureaucraties qui nous gouvernent. Et je crois qu'aujourd'hui, une des priorités des mouvements sociaux et de ceux qui luttent pour la transformation sociale, c'est de réinvestir la critique de la technologie et de se rendre compte qu'en fait, au lieu de nous libérer, elle a tendance à nous asservir.
Mais c'est par le droit qu'on parviendra justement à ce qu'il n'y ait pas de recul des libertés fondamentales.
Alors malheureusement, je pense que le droit reste un outil, les droits de l'homme restent un outil de défense extrêmement important face à ces formes de reprise en main et de contrôle. Malheureusement, je suis forcé de constater, après 10 ans d'engagement sur ces combats précisément, que c'est relativement inefficace. Et que les droits de l'homme sont un instrument à l'efficacité très limitée dans le contexte qui est le nôtre pour protéger les libertés et renverser la vapeur.
Vous êtes membre fondateur de la Quadrature du Net, c'est une association de défense des droits et des libertés sur Internet. Vous attaquez la CNIL, là vous revenez du Luxembourg, me disiez-vous. Vous avez déposé quoi, un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne?
Oui, contre la loi renseignement adoptée en 2015 qui légalise et blanchit au niveau... juridique, les mesures de surveillance massive développées par les services de renseignement français, au même titre que beaucoup de leurs homologues étrangers d'ailleurs. Et donc on assiste à une passe d'armes assez musclée entre les juges de la Cour de justice de l'Union européenne, qui sont une des dernières cours en fait à résister à la surveillance de masse, et qui est un des derniers remparts institutionnels justement contre la banalisation de cette surveillance massive. Et face à cela, on a vu des États très remontés qui défendaient bec et ongle leur capacité de surveillance massive.
Et contre la CNIL, qui est quand même censée aussi nous défendre?
Eh ben oui, effectivement, la CNIL qui fait malheureusement preuve d'un certain manque d'inefficacité, manque de volonté politique pour vraiment aller à l'encontre de ces dérives.
Félix Tréguer, L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet du XVIe siècle à nos jours, est publié chez Fayard. Merci.